Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, ici Jeanne de Radio Campus Amiens. Bienvenue sur nos ondes, c'est l'heure de votre émission quotidienne Info Club Sandwich. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une rencontre avec Charlie Welcome, un artiste amiénois. Bonjour.
Bonjour.
Tu es donc très hétéroclite dans ta pratique artistique. Tu fais du dessin, de la peinture, de la photo, mais aussi des enregistrements sonores, des installations, de l'écriture. C'est important pour toi de toucher un peu à tout, comme ça, à différents supports, de varier ton mode d'expression?
Oui, c'est assez loin dans ma pratique, c'est-à-dire quelle définition on apporte au fait d'être artiste, quoi. Et du coup, la définition qui m'a un peu, moi, surprise, quoi, et fait réfléchir, c'est le fait de définir l'artiste depuis le XXe siècle comme quelqu'un qui fait ce qu'il ne sait pas faire, en fait. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et du coup, en fait, développer des connaissances, des consciences, surtout de systèmes de pensée, de façon de faire les choses qui sont moteurs dans le travail de plasticien, au final. Et du coup, toute ma définition actuelle de ce que doit être un plasticien, entre guillemets, bien sûr, découle de ça, quoi.
Donc de tenter des choses, en fait, de se lancer dans des projets sur lesquels on ne maîtrise pas grand-chose au départ.
Voilà, ouais, c'est ça, de s'approprier au final des médiums et leur savoir et leur communauté de connaissances, quoi, pour pouvoir les réutiliser et les utiliser ailleurs. C'est d'ailleurs en faisant de la peinture que j'ai compris des choses en sociologie, par exemple, quoi, où en fait la peinture dans sa matière fonctionne par système de couches, de strates. On appelle ça la stratigraphie, c'est un terme de géologie, en fait, bref, que j'écorche de temps en temps, mais bon, bref, peu importe. Et par système de couches qui interagissent les unes entre elles. Et au final, je pense qu'on peut assez facilement projeter ça dans le domaine de la sociologie, quoi, au final, où des couches de population vont avoir, ou même si on prend des ensembles, par exemple un individu qui est dans une communauté, la communauté qui est dans elle-même la société, etc. etc., quoi. Et bon, voilà, quoi.
On retrouve d'ailleurs toute cette réflexion sociologique à travers beaucoup de tes œuvres. Tu es d'ailleurs, tu fais actuellement une thèse aussi en sociologie de l'art.
Alors, non.
C'est ça ?
En fait, j'ai écrit des textes parce que je suis pas pressé de redevenir étudiant. J'ai connu ça pendant de nombreuses années, donc voilà. Là, je prépare, en fait. J'ai fait des textes pour Libre Échange, du coup, une exposition qui a eu lieu l'année dernière. 25 pages de texte à peu près, et puis il y a beaucoup d'autres textes que j'ai écrits depuis les 5 dernières années qui tournent toujours à peu près autour des mêmes thématiques, c'est-à-dire le rapport de l'individu au monde, quoi, mais pour être plus précis, dans une société occidentale avec ses rapports de force et ses considérations actuelles, quoi. Et du coup, il me semble que le plasticien a une position qui devrait être centrale, mais qui est là très encartée, en fait, dans des logiques données qui prendraient du temps à être développées ici. Mais voilà. Et du coup, voilà, j'ai oublié la question.
Sur ton intérêt sur la sociologie de l'art, justement,
oui,
c'est quelque chose qu'on retrouve dans tes œuvres.
Ah oui, oui, oui. Oui, bah du coup, je suis plus à l'aise avec les images qu'avec les mots, et du coup, toutes ces considérations-là se mettent forcément en œuvre dans mon travail, quoi, et voilà, quoi.
Et donc, tu comptes poursuivre peut-être un doctorat après ?
Voilà, c'est ça. Je suis en train de chercher, là, pour l'instant, une université qui, avec une équipe de recherche qui pourrait... comment dire, être en adéquation avec l'axe que je souhaite donner à ma thèse, et potentiellement rentrer en septembre. Moi, j'aimerais rentrer en doctorat en septembre. Après, vu le contexte actuel, etc., c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'habituer à ça et à trouver des moyens, en fait, de résistance vis-à-vis du contexte. Voilà.
T'as abordé brièvement aussi ton exposition, donc Libre-Échange, que t'as présenté en mars 2020 à l'espace Camille Claudel, ici à Amiens. Donc, Libre-Échange, c'est un peu un mot à double sens dans cette expo, puisque c'est à la fois, tu abordes la transformation de l'art en produit de consommation, en quelque sorte, avec le Libre-Échange, mais aussi les échanges autour de l'art qui peuvent se faire au sein d'un lieu d'exposition, par exemple. C'était l'idée de mettre en avant cette dichotomie du rapport à l'art.
Ouais, c'est ça. C'est de jouer. En fait, j'ai un peu volé l'idée à Pierre Bourdieu et Hans Haacke dans leur livre Entretien, mais du coup, du fait de pointer du doigt l'utilisation déviée des mots et leur signification originale. Et du coup, là, effectivement, c'était de poser la question quel est le rôle du lieu d'art et quelle est la différence entre le lieu d'art et le lieu culturel? Quel rapport entre les deux? Quelle différence entre les deux? Et en quoi ça influe sur notre vie, nous, en tant que citoyens, sans même qu'on s'en rende compte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie culturelle qui opère aujourd'hui. On a un ministère de la culture, pas un ministère des cultures ou de la question culturelle, et voilà. Et par rapport aux discours politiques qu'on entend en ce moment, qui sont très séparatistes au final, qui n'ont pas des discours où on pointe du doigt, où on se sépare et on ne trouve pas de terrain commun, contrairement à ce qui a pu se passer sur les ronds-points durant les manifestations gilets jaunes par exemple, quoi. Donc voilà, on se retrouve dans un système comme ça d'encartage, de séparatisme, et il faut essayer de trouver un libre-échange, quoi, qui soit un véritable libre-échange à mettre en place entre les individus et qui permettent en fait d'avancer en tant que nation, quoi, en tant que société, quoi. Voilà.
Et donc tu t'intéresses notamment à cette question du lieu d'exposition. Parce que pour toi, il est central justement dans ce rapport à l'art, justement, qui sous forme d'échange.
En fait, oui, c'est un peu complexe parce que le lieu d'expo en soi, il m'intéresse pas plus que ça. C'est plutôt le vivre ensemble, quoi. Je pense qu'il y a des gens, notamment même à Amiens, qui posent cette question-là au travers d'actions. Comment on pense le vivre ensemble, quoi. C'est des questions où on a trouvé des réponses au 19e siècle en Occident, très despotiques quelque part, quoi. C'est-à-dire chacun chez soi et puis quelques lieux où on va décider que advient une rencontre, quoi. Et encore sous quelle égide, quoi. Alors que, par exemple, on a des squats en France ou même des zones à défendre où on essaie d'apporter d'autres réponses à ce vivre ensemble-là. Des réponses qui me semblent même être plus pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a quelques siècles, considérant les enjeux dans lesquels on se trouve en termes de société, c'est-à-dire l'hyperproductivité, la consommation à outrance et le gaspillage aussi. Parce qu'on nous dit de fermer le robinet quand on se lave les dents, mais quand on se brosse les dents, mais derrière on jette des tonnes de nourriture et des tonnes de nourriture qui ont été produites avec des consommations d'eau absolument aberrantes, quoi. Donc une espèce de... Oui, je pense qu'il faut qu'on repense ce vivre ensemble là de manière systémique, parce que le milieu associatif évidemment participe de ça, mais ne fait pas système, et c'est ça le problème, en fait.
Et pour toi, l'art, il est central là-dedans, le processus?
Oui, je pense que un renversement, une transformation systémique ou de société, en tout cas, ne peut pas advenir sans un culturel, quoi, sans une représentation d'un lendemain qui soit souhaitable pour tous, quoi. Et c'est ce qui fait défaut un peu à certaines luttes aujourd'hui, je pense, quoi. D'ailleurs, sous quoi on se rassemble au final, quoi. Et oui, il faut que les plasticiens sortent de leur carcan qui puisse provenir de l'école ou de la normation culturelle dans laquelle on vit aujourd'hui, mais être producteurs de contenu et de contenant, quoi, pour que les rencontres entre les individus, les groupes d'individus puissent advenir, quoi, et qu'une intelligence collective puisse naître. Ça ne peut pas naître sans... voilà, même si on a vu, comme je disais tout à l'heure, avec les Gilets jaunes, mais avant ça, il y a eu aussi Nuit debout, plein d'actions comme ça, où les gens ont pu se rencontrer, se rassembler, et oublier leur disparité, et se retrouver autour de volontés communes, quoi. Et oui, le plasticien, il doit être moteur là-dedans, quoi, et il doit se réveiller aujourd'hui, quoi, clairement, quoi.
D'ailleurs, tu poses la question, est-ce que tu as créé une boutique en ligne sur ton site internet, et tu te bats notamment contre le prix fixe pour les œuvres. Du coup, l'idée, c'est de permettre à chacune de s'approprier des œuvres d'art et de pouvoir y avoir accès sans forcément payer le même prix, pour éviter les barrières financières.
Ouais, c'est ça. Alors, la boutique sur le site n'est pas encore disponible. En fait, je suis en train de revoir mon site avec mon pote qui est programmeur et qui fait des sites. Et voilà. Mais effectivement, donc là, j'ai ma boutique Rarib qui est en ligne, mais c'est encore autre chose. Donc effectivement, j'ai décidé d'arrêter de vendre à prix fixe, parce que, sauf pour certaines choses très particulières, c'est-à-dire des reproductions, par exemple, genre des affiches signées ou des choses comme ça, qui ne sont pas encore disponibles du coup, mais qui seront disponibles en courant de l'année. Mais le prix fixe, il me semble, est une très vieux au final dans l'histoire du marché de l'art et n'est plus en adéquation avec une volonté démocratique. Quoi. Si on veut se dire vraiment, on veut prétendre être en démocratie, il faut mettre les outils qui soient justes par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, tout le monde doit pouvoir accéder de manière égale et équitable, en tout cas, à ce qui fait, ce qui doit rassembler. Je parlais de rassemblement tout à l'heure et de choses. Voilà. On doit pouvoir mettre en place des choses de ce type-là, et je pense que un ouvrier ne devrait pas, enfin pour être caricatural, mais voilà, mais pour être aussi plus intelligible, un ouvrier ne devrait pas se dire inconsciemment qu'il ne mérite pas ou qu'il n'a pas sa place au sein d'un musée ou au sein d'une exposition d'art. C'est là déjà la première défaillance en fait d'une transformation de société quoi, qui pourrait advenir quoi. Il faut que tout le monde puisse se reconnaître et puisse voilà, c'est aussi pour ça que je fais de la peinture à l'huile. Quoi, c'est assez mal vu au final dans l'art contemporain, entre guillemets, ou en tout cas, on sort de quelques décennies où la peinture c'était quelque chose de kitsch. Mais en fait, il faut bien aussi se dire que si on demande à n'importe qui dans la rue qu'est-ce que de l'art, on va tomber sur des choses très techniques au final, c'est-à-dire de l'ordre de la peinture à l'huile, des objets au final, plus que des démarches. Mais on peut très bien faire les deux en fait, et c'est ça la chose sur laquelle je m'embrouillais pas mal avec mes profs. On n'était pas d'accord, mais bon, je pense que j'essaie de démontrer qu'effectivement on peut faire des choses comme ça. Et du coup, oui, il y a des paliers selon les œuvres que je vends, et donc un minimum en fait. Voilà. Et puis après, on paye selon son revenu, donc un justificatif à montrer, comme quand je sais pas moi. On doit payer des impôts ou quoi. Bon.
T'appelles ça d'ailleurs impôt sur la fortune ISF?
Ouais, c'était un petit clin d'œil parce que quand je m'étais dit il faut que je mette quelque chose en place. En fait, ça fait très. Depuis que je suis sorti de l'école, depuis très récemment. Et comme je disais, j'étais en désaccord constant, mais de ça, ça remonte à mon enfance, quoi. Mais en désaccord constant avec les gens qui sont en face de moi. Surtout quand ils sont légitimes par leur position en tant qu'appartenant à un système, bref. Et du coup, donc l'impôt sur la fortune, le fait que là, on le supprime et qu'on le remplace par autre chose, c'est une histoire de la lutte. Et du coup, c'était un clin d'œil aussi, quoi. Dire, voilà, c'est bon, quoi.
On retrouve beaucoup les questionnements autour de la lutte et tout ça dans ce que tu dis depuis tout à l'heure. Toi, en tant qu'artiste plasticien, tu te considères aussi comme militant ? C'est une forme de militance ?
C'est une bonne question. En vrai, quand, il y a quelques années, j'aurais répondu oui, à coup sûr, mais je m'enlève d'année en année, je ne me revendique de moins en moins... d'une chose ou d'une autre, quoi. Et donc non, je dirais pas que je suis militant, je suis plasticien, et même ça, ça m'embête parce que j'entends des gens dire être plasticien, et non, ils le sont pas, quoi. Ils sont dans le meilleur des cas illustrateurs, mais si je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, ça tient de la différence entre qu'est-ce que c'est être faire de l'art décoratif, faire des beaux-arts, faire de l'art plastique, voilà. Il y a plein de différences, et j'entends souvent des gens parler d'art, qui sont des professionnels, et dire art 5 fois dans la même phrase, et ne pas être capable de répondre à cette question, quoi. Quelle est la différence entre ça, ça et ça? Et oui, non, je ne me dis pas militant. J'ai des amis militants qui font un travail, qui participent d'un rapport de force quotidien, il y a un rapport de force en société qui est du maintenant. Moi, j'essaie de travailler sur le rapport de force de demain, quoi. Je considère que c'est mon travail, quoi. Même si je ne suis pas payé pour ça, peu importe, c'est mon boulot, quoi.
Ouais. Tu explores en quelque sorte.
Ouais, c'est ça. Ouais. J'essaye en tout cas, quoi.
Au niveau de tes projets actuels, on t'a vu d'ailleurs en résidence à l'accueil froid en novembre dernier. C'est là que tu as poursuivi une série de peintures grand format qui s'appelle Les Revêches. Tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, ça faisait un moment que j'avais envie de faire une série de toiles un peu... Quand on va dans les musées, on a souvent des toiles qui font 3 mètres par 4, voilà. Et quand on est un petit prolo, on n'a pas forcément la place de faire des toiles de 3 mètres par 4, quoi. Et du coup, vu que les copains de l'asso sensible étaient... dans une indécision par rapport à l'espace, j'ai proposé de louer pendant un temps, enfin voilà, ou de participer en tout cas aux frais liés à l'espace, et puis de faire une pierre deux coups en fait. Et du coup, oui, effectivement, j'ai pu avoir accès à un espace très grand, à un atelier au final, très conséquent, et qui m'a permis d'être un peu plus libre, quoi. Et ça a été un peu un électrochoc pour moi. Effectivement, c'est beaucoup plus facile quand on a de la place, c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, j'ai fait 9 toiles en un mois, quoi, sur des formats allant de 2 mètres par 3 à 2 mètres. Ouais, enfin voilà, 2 par 4 mètres, enfin, des choses comme ça, quoi. Et du coup, des fresques qui parlent de choses contemporaines, quoi, qui sont très, à la fois très presque anthropologiques, je dirais. Et enfin voilà, c'est de l'art, on peut pas enlever le côté art plastique, la dimension art plastique à cette production. Donc, c'est. Oui, voilà.
Donc, pas de sortie de résidence possible du fait des conditions sanitaires. Est-ce que tu as prévu de les exposer quand même, ces toiles?
Alors, oui, effectivement, c'était une question. Du coup, d'où la réponse, les réponses que j'ai trouvées, ça a été donc là, je pense faire des reproductions en fait sur des formats affiches, voilà, et les afficher dans la rue, donc un peu partout en France, enfin en tout cas dans les grandes villes, quoi. Bon, pour l'instant, c'est en attente, quoi. Mais voilà, et sinon, les vendre des reproductions, en fait. Sur les marchés qui sont en train de se créer liés à la crypto-monnaie, quoi. C'est-à-dire, ouais, j'ai ouvert un compte Rarible, et du coup, on peut acheter les formats, les productions que j'ai faites en dématérialisé, quoi, voilà, sur Rarible, bientôt. Enfin, c'est pas encore tout à fait en accès libre, je suis en train de voir le côté légal, etc., comment on fait pour que ce soit assez carré tout de même, quoi. Voilà.
Et sinon, tu poursuis aussi un travail, une série de peintures qui s'appelle Les Icônes Modernes. Tu avais commencé, ouais, en 2017.
Oui, alors à ce moment-là, j'étais en pleine repolitisation assez extrême, on va dire. Parce que, bon, quand on sort de 10 ans d'études sup, où on a, comment dire ça, de manière non vulgaire, on a travaillé, on a fait des David Graeber dirait des bullshit jobs, quoi, à la chaîne pour être payé une misère et pouvoir payer en fait juste un loyer à un bourgeois qui a pas forcément besoin de d'un loyer supplémentaire ou pas, enfin bon, bref, pardon, hein, mais voilà, quoi. Et et en plus bosser à l'école pour avoir un bac plus 3, un bac plus 5 ensuite, qui n'apporte concrètement rien, quoi, si ce n'est bien évidemment à travers les gens qui sont employés dans ces écoles, s'ils sont compétents, ce qui est assez rare malheureusement. Et je questionne la compétence chez eux comme je la questionne chez moi, bien évidemment, mais j'ai eu la chance, en fait, je dis ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens compétents, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, et du coup, d'avoir un savoir-faire, mais un savoir-faire qui n'est pas valorisé, en fait. On est dans une société, Laurent Gori parle de la société des imposteurs et de la médiocrité, bon, voilà, on est un peu là-dedans, quoi, où c'est effectivement difficile ensuite de pouvoir... c'est le rapport au travail qui est en fait super intéressant, quoi. Au final, aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte qu'on a une échelle de valeur vis-à-vis du travail qui est uniquement financière, quoi. Alors qu'en fait, un travail, il y a 5 formes de richesse déjà, et puis un travail, il faut questionner sa pertinence. Par exemple, je fais du tatouage, je suis payé pour faire du tatouage. Pardon, mais je pense pas que quelqu'un qui dessine sur les gens de plus ou de moins, ça fasse une différence en termes de nation. Par contre, quelqu'un qui se pose des questions théoriques telles que je le fais a peut-être un peu plus de pertinence, considérant le contexte, surtout par rapport aux crises qu'on traverse, quoi. Et l'un apporte de la rémunération et l'autre pas. Et bon, Bernard Friot ou d'autres en parleront mieux que moi, mais alors les icônes modernes, ouais, j'étais à un moment où j'essayais de prendre de la distance, enfin d'être un peu moins énervé politiquement comment dire, un peu moins révolté, quoi, et de trouver un moyen de faire passer ça, mais par le rire, quoi. Je m'intéresse pas mal à l'anthropologie des populations yaki en Amérique du Sud, etc., et au mode de pensée, on pourrait dire archaïque, mais pas du tout archaïque, mais bon, voilà. Et du coup, il y a le concept du rire et qui tourne autour de ça, de démystifier ou en tout cas de faire partir le négatif, quoi. Et du coup, bon, on a aussi ça en Europe, quoi, à travers les dessins de caricatures, etc. Et je voulais ramener ça, en fait, dans mon travail, l'ancrer plus dans une démarche plastique, quoi, c'est-à-dire, à travers aussi quelque chose de très kitsch, quoi, parce qu'au final, qu'est-ce qu'il y a de plus kitsch dans notre société qu'un Jean-Pierre Pernaut au JT de TF1, quoi, enfin, même si j'ai rien contre, je veux dire, c'est à la fois très confortable, quoi, j'aime beaucoup cette image-là, parce que, étant enfant, c'était un moment de rassemblement aussi, quoi, devant la télévision, etc., et du coup, il y a quelque chose d'assez pertinent, mais quand on arrive à déconstruire un petit peu les biais politiques et philosophiques qui sont derrière, c'est-à-dire des petites violences structurelles qui sont passées comme ça discrètement, quoi. Bon, voilà, je ne vais pas les détailler, ça, je pense que les gens s'y intéresseront d'eux-mêmes ou n'en sont déjà conscients. Mais, et du coup, voilà, une série de peintures, les icônes modernes pour me moquer un peu et puis dédramatiser aussi, quoi. Moi, la peinture, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'un peu de comprendre qui je suis, où je suis, et voilà, ça a été un outil pour moi, quoi, sur ce type de choses là et là encore, cette série là touche à ça, quoi.
Et donc tu la poursuis maintenant?
Oui, j'aimerais faire 12 apôtres de la communication fin 20e siècle, début 21e, quoi, en France. Et puis, j'ai aussi quelques petites toiles, entre guillemets, qui tournent autour de cette thématique-là, où en fait je mets en scène des personnalités médiatiques dans des situations plus d'icônes religieuses telles qu'on a pu voir dans la peinture pendant presque 10 siècles au final, en Occident, quoi. C'est-à-dire, donc là, le dernier terminé qui a été exposé à Libre-Échange, c'est Carlos Ghosn, qui s'échappe de la malle Yamaha, en reprenant une toile de Prudhon, qui est la justice et la vengeance divine pour chassant le crime, quoi. Donc, voilà. Et puis là, je termine Léa Salamé et Carlos Ghosn, donc en référence à l'entretien qu'elle a eu avec lui quelques semaines après son évasion rocambolesque, la sympathie qu'elle dégageait vis-à-vis de lui, alors que quelques jours auparavant, elle déchargeait une haine bourgeoise innommable sur un représentant syndical, enfin Philippe Martinez, quoi, de la CGT. Et bon, voilà, enfin, c'est des petits clins d'œil, quoi, des petites piques médiocres, enfin, à mon échelle, quoi, peu importe. En tout cas, ça me fait rire, et puis ça me fait un peu dédramatiser, voilà. Et j'espère que ça a le même effet aux gens qui regardent, quoi, voilà.
Donc ça a se terminé pour 2022 à peu près, c'est ça?
Oui, ouais, c'est la date limite que je me pose pour cette série, puisque c'est aussi la date de fin de mandat d'Emmanuel Macron, et puis ça sera clôturé donc par une série de 60 toiles sur notre cher président. Voilà.
Bah merci beaucoup, Charlie Wellcome. On peut découvrir donc toutes tes œuvres et tes actualités sur ton site internet charliewellcome.com. Je mettrai le lien dans le podcast. Et puis un site qui viendra donc bientôt voir naître donc l'achat d'œuvres en ligne aussi. On suivra ça de très près ici.
C'est ça. Merci beaucoup.
Merci à toi. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain 12h et 18h comme d'habitude. Cette fois pour aller faire un tour du côté de l'AFEV, une asso qui œuvre contre les inégalités éducatives et sociales. À demain.